et Patrick Pierrat, Wilfred Edzoa à la mise en onde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue en ce beau dimanche printanier, absolument. Bienvenue à votre magazine sur l'éducation, Parlons éducation. Bonjour Bernard.
Bonjour Patrick, comment vas-tu?
Ça va très bien, en pleine effervescence printanière.
N'exagérons rien, quand même.
Alors, de quoi allons-nous parler dans cette nouvelle édition de Parlons éducation?
Comme d'habitude, mon cher, nous avons les actualités de la semaine où on fait état de ce qui a retenu notre attention. Et par la suite, moi, j'avais précisé auprès de nos auditeurs que je reviendrais sur le tableau de bord du ministre, de notre ministre de l'Éducation qu'il avait présenté il y a un mois. Alors, on va aller un petit peu plus en détail. Dans ce tableau de bord-là. Alors, je me suis improvisé pilote.
Ben oui, est-ce qu'il y a un volant sur le tableau de bord?
Y a-t-il un volant? Est-ce un tableau de bord? Alors, ouais. Moi, quand même, on peut faire des blagues, mais il y a quand même des choses intéressantes.
Bien sûr, bien sûr.
Évidemment, parce que c'est un tableau c'est davantage évident. Descriptif, que je dirais. À savoir si c'est un tableau de bord, ça, c'est autre chose. Ouais. Mais on va en parler tout à l'heure. Et je pense que toi, tu as une entrevue avec quelqu'un qui va stimuler notre intérêt.
Absolument, absolument. Moi, c'est différent de toi, vraiment. Là, on part du ministère de l'Éducation, puis on s'en va dans la classe avec M. David Bessette, qui a écrit un livre vraiment intéressant qui s'appelle « Le primaire en plein air ». Donc, une pédagogie efficace et clé en main pour sortir les élèves de la classe sur une base régulière, faire la classe à l'extérieur, faire la classe... dans le bois, au parc, et ainsi de suite. Et c'est vraiment un livre très intéressant.
On a connu ça un peu dans la pandémie, quand même.
Oui, 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 tout à fait. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est connu, mais encore faut-il avoir les outils puis le courage de le faire en tant qu'enseignant, parce que ça demande quand même un certain dévouement.
Absolument. Le climat, surtout.
Ça fait partie des questions que je vais poser à M. Bessette tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est bien. Et on a toujours notre question de la semaine.
Bien sûr, bien sûr.
À la toute fin de l'émission.
Bien sûr.
Qui est une question un petit peu particulière cette semaine. On va essayer d'aller questionner nos auditeurs sur un élément d'actualité.
Oui, vraiment.
Puis qui va peut-être nous aider à nous donner un cas pratique sur l'éthique professionnelle des enseignants.
Absolument, comme on l'a déjà abordé dans une précédente émission.
C'est exact.
Oui.
Alors, c'est le menu de la journée, mon cher.
Ben, c'est formidable. Alors, on va commencer avec les actualités de la semaine. Bernard, est-ce que tu veux commencer?
Ben, si on suit notre ordre du jour, je pense que c'est toi qui as le premier sujet.
Oh là là, un peu de rigidité à l'horizon.
Quand même,
je veux bien commencer, il n'y a pas de problème.
T'es capable. Alors, l'aide des parents pour la rétention des enseignants.
Ben oui, c'est un article qui avait attiré mon attention. Je trouvais, je me disais, bon, qu'est-ce que les parents peuvent faire pour aider à garder les enseignants, on sait, en période de pénurie. Alors, il y a des directeurs d'école qui ont été interrogés par la presse à ce sujet-là, et ces directeurs... était unanime à dire que les parents pouvaient faire la différence parce que les enseignants, évidemment, interagissent au quotidien avec les parents, on le sait. Hein? Mm-hmm. Et souvent, il y a des discussions qui peuvent être longues, qui peuvent être émotives aussi avec les parents. Hein? Évidemment, on sait comment ça se passe. Hein? Et les enseignants, à l'université, je ne pense pas qu'il y ait un cours de communication avec les parents. Hein? On doit en parler sûrement un peu, mais il n'en reste pas moins que c'est des jeunes enseignants qui sortent de l'université. Je ne suis pas certain qu'ils soient préparés à développer cette communication avec les parents. Alors, les directeurs d'école disaient aux parents, regardez, il y a quelques petites choses que vous devez savoir, notamment que, on ne gère pas 500, 1000 ou 1500 enfants de la même façon qu'on gère 2 ou 3 enfants à la maison. Donc, ça, déjà là, il y a des différences de valeurs, il y a des différences de fonctionnement. Donc, il faut que les parents restent conscients de ça. On demande aussi aux parents de collaborer avec les enseignants. Ça va de soi. Là. C'est quelque chose qu'on connaît.
Dont on a déjà parlé souvent.
Bien sûr. Et l'importance des parents dans la scolarisation des enfants, ce n'est plus à démontrer. Mais il y a quand même encore... une minorité de parents qui ont tendance à contester les enseignants, qui ont tendance à rouspéter plutôt qu'à essayer de trouver des solutions, à écouter les points de vue des enseignants, etc.
Alors, donc, il y avait un article qui traitait de ça, c'est ça que je comprends?
Absolument, oui, oui, tout à fait. Et l'appui des parents et leur confiance est vraiment essentiel pour les enseignants, particulièrement pour les jeunes enseignants qui débutent. Alors, on disait aussi dans cet article-là qu'il faut que les parents respectent les règles de l'école, comme éviter d'appeler leurs enfants sur leur cellulaire pendant les cours. Hein, parce que ça a l'air que c'est ça, bon, c'est quelque chose...
De toute façon, il n'y a plus de cellulaire maintenant.
Non, il y en a plus. Il faudrait aller vérifier ça.
Hein. Ben, en tout cas, moi, je peux dire d'après ce qu'on entend, la règle est appliquée
de façon
très rigoureuse.
Ben, tant mieux, tant mieux. Aussi, éviter d'amener les enfants en voyage pendant l'année scolaire. Hein? Ça, c'est quelque chose qu'on voit quand même encore assez souvent. Puis, un des exemples les plus flagrants de mauvaise éducation des parents, c'est les parents qui amènent leurs enfants à la porte de l'école en auto, au mépris des règles de circulation dans les aires scolaires. Exactement, des règles de sécurité, absolument. Alors ça, c'est des petits exemples, en disant, soyez civiques, soyez éducatifs dans vos façons d'être, et ça va aider les enseignants, ça va aider les écoles en général. Donc, c'est un petit message passé aux parents.
Bonne idée. Quand j'étais directeur général, on avait ce défi-là dans certaines écoles primaires, notamment, où les parents venaient déposer leurs enfants, malgré qu'ils avaient droit à un transport scolaire.
Oui, bien sûr.
Alors, ça, c'était particulier.
Puis ça, c'est un défi qui est toujours connu là, dans toutes les écoles, ici à Montréal particulièrement, parce qu'il n'y a pas de transport scolaire. Ça prend beaucoup de règles, puis les gens qui ont de la poigne pour les faire respecter.
Mais imagine pas quand il y a un transport scolaire, puis que les parents refusent parce que le transport scolaire, c'est trop tôt le matin. Alors, ils préféraient aller déposer leurs enfants. Alors, c'était particulier comme situation. C'est intéressant.
Moi,
de mon côté, Patrick, c'était terminé.
Oui, j'ai terminé.
Dans l'actualité qui a retenu mon attention, il y avait cette plainte que des conseils scolaires de l'Ontario ont déposée en Cour supérieure. Des plaintes qui accusent Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok de perturber les apprentissages des élèves et leur réclament des milliards de dollars. Mmh. Je ne sais pas si tu t'en souviens, on avait rencontré M. Bergeron, qui avait un regard critique. D'ailleurs, M. Bergeron a écrit un livre ou deux, je pense, articles, même dans les journaux, où il fait état d'une certaine réticence, d'une certaine gestion de la technologie dans l'éducation. Et ces parents-là, leur plainte...
Ce n'est pas les parents, c'est les conseils scolaires.
Les conseils, mais représentés par des parents. Alors, ces conseils scolaires-là font état de la santé mentale. On pense que l'utilisation excessive des médias sociaux, des grandes compagnies dont je t'ai parlé tout à l'heure, peuvent perturber la santé mentale, affectent l'attention et les apprentissages des élèves par une trop grande utilisation. Alors, leur prétention, c'est que ça peut nuire au bien-être des élèves. Alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Évidemment, dans l'article qui a paru dans la presse, qui a été signé par Mme Marie-Ève Moras, elle nous dit que, même l'utilisation des jeux vidéo, particulièrement chez les garçons, entraîne une réduction de la motivation. C'est intéressant. Parce qu'évidemment, quand les jeunes jouent beaucoup sur les jeux vidéo, leurs résultats, ils les voient immédiatement, alors qu'on sait que parfois, qu'en éducation, on ne voit pas toujours les résultats immédiatement. Alors, puis, elle fait un lien avec les garçons. Alors, évidemment, moi, j'ai pas creusé ça, là. Mais c'est un article que j'ai trouvé intéressant. Et évidemment, ça pourrait faire en sorte que des symptômes de TDAH se développent davantage. Oui. Alors, moi, j'ai hâte de voir comment, dans l'avenir, puis même peut-être qu'on devrait s'en préoccuper maintenant, mais j'ai hâte de voir comment, dans l'avenir, les nouvelles technologies vont être gérées dans le monde de l'éducation. Parce qu'au début, d'ailleurs, tu en as fait mention à quelques reprises, il me semble que quand on a accueilli M. Bergeron, on disait que les technologies avaient beaucoup aidé aux communications. Les technologies nous aident même dans les stratégies d'enseignement. On sait que tout ce qui était développé ces dernières années. Et maintenant, c'est comme si on est en train de voir un peu les impacts, que je dirais, un petit peu plus négatifs.
Absolument. Il y a vraiment un retour réflexif là, sur l'utilisation des technologies à l'école. couplé à l'utilisation des technologies en dehors de l'école, hein, parce que, dans le fond, les jeunes, ils sont sur les écrans, comme on dit vulgairement, à journée longue, oui. À l'école et à la maison. Et bon, on peut comprendre qu'il y ait des effets peut-être un peu négatifs, mais la question est posée. Mais je pense que M. Bergeron était un peu précurseur à ce moment-là, parce que ça ne fait pas si longtemps, mais ce n'était pas encore aussi répandu. Mais là, les voix s'élèvent un peu partout pour demander une diminution de la technologie à l'école.
À tout le moins, je te dirais que d'après l'article, ça suscite des débats.
Oui,
des débats, ça suscite des débats et je ne pense pas que la Cour supérieure de l'Ontario, puis même si c'était au Québec, ce serait la même affaire, je ne pense pas qu'il y aura des interdictions. Mais non. Ça peut amener la création de groupes de travail, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs, ça peut amener la création de groupes de travail et de personnes qui peuvent faire des recommandations et éventuellement documenter scientifiquement les impacts. Parce
tout
que
à fait.
On est dans le domaine des perceptions.
Aussi. Oui, mais ça commence. Hein. Il y a de plus en plus de recherches. Puis bon, par contre, le fait de faire une poursuite, d'intenter une poursuite contre les géants du web, bon, est-ce que c'est une bonne idée? Je suis pas certain.
Ben, ça envoie un message.
Oui, exactement. Prenons-le comme ça. Là,
oui, ben moi, je l'ai pris comme ça. Ça envoie un message. Et ça vient sensibiliser ces compagnies-là, évidemment, à avoir une utilisation peut-être un petit peu plus prudente des médias sociaux et d'avoir des approches un petit peu différentes, surtout quand il s'agit de produits qui s'adressent aux jeunes. Parce qu'évidemment, ce qui nous intéresse ici, c'est les jeunes. Alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant, puis je voulais partager ça avec les auditeurs dans mon premier sujet de la semaine.
Alors, peut-être que dans l'avenir, les écoles vont faire leur publicité, non plus sur la technologie, ils vont dire « Venez, amenez nos enfants, on utilise le cahier et le crayon.
» Je ne sais pas, Patrick, je ne pense pas qu'on va retourner là.
Il paraît qu'en Finlande, ça s'en vient.
Oui.
Bien, notre modèle.
Non, mais tu te souviens qu'on avait accueilli un prof l'automne passé et qui nous disait que maintenant, les enseignants en Suède, parce qu'il enseignait en Suède, un Québécois d'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en souviens, M.
Oui, très
Longchamp,
bien, très bien.
Il nous avait dit que, bon, lui, il réfléchit beaucoup à une formule hybride sur l'enseignement traditionnel avec un tableau et des crayons et l'utilisation des technologies.
Bien sûr.
Alors, peut-être qu'on reviendra à une formule qui sait.
Tout à fait.
Alors, de ton côté, le troisième.
Ben oui, une autre petite nouvelle un peu anecdotique, mais quand même intéressante, qui nous sort un petit peu de nos sujets habituels. On a appris cette semaine quelque chose d'assez surprenant. Un enseignant d'une commission scolaire du Québec un enseignant d'art plastique a fait faire dernièrement des portraits à ses élèves de secondaire 1 et 2 dans le cadre de leur cours. À un certain moment, les élèves se sont rendus compte que leurs œuvres étaient en vente sur Internet. Donc, on suppose que l'enseignant avait... s'était approprié les œuvres et les avait transformées en objets, etc., pour les vendre, etc. Alors, bon, la question, c'est est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'un dessin qui est exécuté par un mineur sans statut est protégé par la loi sur les droits d'auteur? C'est quand même une question assez originale. Hein? Et bon, on parlait de cours. Ben ici, les parents ont déposé une action collective de 1,5 million devant la Cour supérieure du Québec en vertu de la loi sur les droits d'auteur contre l'enseignant et la commission scolaire. Alors, évidemment, ça semait tout un émoi. Mais il semblerait que toute forme d'art qui émane d'une personne appartienne à cette personne, quel que soit son âge, quel que soit son statut.
Est-ce que ça a été abordé sous l'angle de l'éthique professionnelle de l'enseignant?
Là, mais c'est sûr que...
Éventuellement.
Évidemment que c'est sous-jacent, hein, c'est clair. Alors, voilà. Donc,
c'est bien.
Juste une petite nouvelle comme ça. Une petite dernière?
Oui, de mon côté, ce qui m'a interpellé beaucoup, c'est la réaction de la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, qui avait un regard un petit peu critique sur les formations accélérées que l'État québécois a décidé de démarrer en janvier. Il faut se souvenir que pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre et accélérer les constructions, notamment les constructions d'écoles, l'État québécois a décidé de prendre quelques programmes des métiers régis par l'industrie de la construction, de les raccourcir et de former des travailleurs plus polyvalents pour éviter les longueurs et le temps que ça prend pour faire passer tous les corps de métier dans un chantier. Tu sais qu'au Québec, on a beaucoup réglementé
tout à
ça.
Fait.
Évidemment, les enseignants ont participé à ce projet-là parce qu'évidemment, c'est devenu politique en même temps aussi, hein, parce que ce qui était, ce qu'on voulait régler comme problème était réel. Là.
Oui, donc, tout
c'est pas
à
un
fait,
problème
tout
qu'on
fait.
A inventé. Sauf que la FAE nous dit que parmi ses membres, notamment les enseignants de la formation professionnelle, certains sont inquiets. Certains sont inquiets d'abord sur la motivation, parce que tu te souviens que ces élèves-là sont payés pour la durée de la formation. Et certains enseignants pensent que les gens viennent davantage pour leur culture personnelle. Et évidemment,
il semblerait qu'il y a eu un cas ou l'autre.
Bien, entre selon les profs qui sont là, assez pour en parler. Alors, il y a eu des... c'est comme si les gens qui sont là, payés, viennent apprendre quelque chose pour transférer
pour
ça dans
leur... bricoler dans leur garage.
Pour bricoler. Ben, pas dans leur garage quand même, mais faire des réparations importantes. Alors ça, les enseignants, ça leur faisait peur un petit peu parce qu'eux autres, évidemment, sont là pour défendre l'expertise, leur expertise
oui,
comme enseignant.
Et la valeur du diplôme d'études professionnelles.
Et la valeur
aussi.
Alors ça, il y a quand même ça qui voulait souligner. Et l'autre chose qu'il voulait souligner, c'est que ça a démarré tellement rapidement que certains profs pensent qu'on n'a pas les locaux pour faire ça. On n'a pas les équipements. Alors, il y a comme un soupçon dans certains centres de formation professionnelle où on enseigne ces métiers-là. Il y a comme un soupçon d'improvisation, je dirais, mm-hmm. pour répondre aux commandes. Parce qu'évidemment, c'est une commande hein, de l'État québécois.
Oui, un peu comme les préposés aux bénéficiaires.
Hein, un peu comme les préposés aux bénéficiaires. Un peu comme les maternelles 4 ans aussi. Là. Alors, il faut démarrer. Et coûte que coûte, on en a besoin. Mais dans ce temps-là, tu le sais, hein, ça prend un certain temps pour que la machine, parce qu'évidemment, là, on est dans la machine... étatique, alors du ministère de l'Éducation, puis des centres de services scolaires. Bon, alors ça prend un certain temps avant que la machine s'accélère. Alors, les enseignants ont un regard, certains enseignants ont un regard plutôt critique et sont un petit peu inquiets.
On n'a pas de statistiques, hein, savoir combien de groupes sont partis.
Dans l'article, on n'en faisait pas mention.
Non.
La seule chose, c'est que les enseignants nous disent, qu'il y a des défis pédagogiques. Au niveau du contenu, il y a des défis pédagogiques au niveau des équipements et il y a des défis pédagogiques au niveau de l'organisation. Bon, j'imagine que ça va s'améliorer avec le temps, mais il reste quand même qu'on est en avril et c'est des groupes qui ont démarré depuis quelques mois. Alors, évidemment, les profs soucieux de leur qualité d'enseignement puis de leur prestation professionnelle voulaient alerter par le biais de la FAE, ils voulaient alerter les citoyens et l'État québécois sur la qualité.
Voilà qui est fait.
Alors, merci beaucoup.
Ben, c'est moi qui te remercie. On fait une petite pause musicale et on s'en va au tableau de bord. Alors, on est de retour, parce qu'on a beaucoup placoté dans nos actualités. On parle du tableau de bord du ministre de l'Éducation.
Tableau de bord qui est arrivé il y a quelques semaines là, dans le beau monde de l'éducation. Alors, M. Drainville a fait une présentation quand même importante. Là. C'était souligné dans beaucoup de médias, le tableau de bord. On en a parlé un petit peu lors d'une actualité de la semaine, à ce moment-là. Mais je tenais quand même à refaire le tour un petit peu du contenu de ce tableau de bord, puis pourquoi le ministre a décidé de faire ce tableau de bord-là. Alors, ce qui m'a frappé dans un premier temps, c'est d'abord le vocabulaire. Alors, un tableau de bord, moi, je me suis mis dans la peau d'un pilote. Alors, on sait qu'un tableau de bord, c'est censé nous aider à faire une forme de navigation. Bon, alors je me suis posé la question, quels sont les indicateurs? Alors, je me suis vu devant un écran, comme si j'étais dans un avion ou dans une voiture. Mais l'idée de l'avion, mais je la trouvais plus sexy. Alors,
oui, parce que si ça ne marche pas, on s'écrase.
Oui, mais quand même, le tableau de bord, on est davantage comme dans le langage de l'aviation. Alors, il y a plusieurs cadrans, si tu me passes l'expression. Mais il y a plusieurs cadrans pour lesquels il n'y a pas de mesure. Alors, j'imagine que M. Drainville et son équipe vont éventuellement nous arriver avec des mesures. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'il faut tourner à gauche? Et qu'est-ce qui va faire qu'il faut diminuer tel aspect? Alors, mais ça, il n'y en a pas. Alors, je vais quand même présenter les indicateurs. Et il y avait une réaction aussi de M. Baillargeon dans Le Devoir,
oui,
qu'on va regarder ensemble, parce que évidemment lui commente beaucoup ce tableau de bord-là. Parce que dans la conférence de presse, j'ai compris que M. Drainville peut-être aurait eu des idées de comparaison entre les écoles, sur les initiatives qui sont prises et qui donnent des résultats. Et on pense que la comparaison peut être une manière importante de stimuler. Ça, le tableau de bord en fait pas mention de ça.
Non. Ce serait dans un deuxième temps.
Dans un deuxième temps, mais on va voir. Alors, ce tableau de bord-là, c'est davantage un portrait. Un portrait, le ministre a besoin d'un portrait, puis je le comprends, il a besoin d'un portrait de l'état de situation de son réseau, le réseau qu'il dirige, avec l'ensemble des gestionnaires qui l'accompagnent. Alors, dans le tableau de bord, il y aura de l'information qui va toucher le nombre d'élèves qu'on a dans nos écoles primaires et secondaires, en formation professionnelle, en formation générale des adultes, et les coordonnées des centres de services scolaires. Alors, moi, j'apprends pas grand-chose là-dedans. Je pense que le ministre avait déjà ça. Mais là, il l'aura dans son tableau de bord. Alors, j'imagine que pour avoir ce portrait-là, il veut connaître l'ampleur du réseau. Des jeunes qui fréquentent les écoles primaires et secondaires. Puis évidemment, le tableau de bord ne concernait pas l'enseignement collégial.
Non.
Alors, d'avoir un portrait sur des élèves, alors on pourrait appeler ça l'évolution de la clientèle, peut-être. Là. Mais une fois qu'on a dit ça, je te pose la question, parce que je peux me poser la question, une fois qu'on sait ça, quand on est dans un contexte de pilote, le nombre d'enfants qui sont dans nos écoles, en quoi ça peut nous aider à prendre des décisions? Ça, évidemment, si tu as des idées, tu m'en parleras.
C'est sûr que la démographie, ça influence certains choix du système scolaire.
Oui, mais bon. Le tableau de bord, est censé nous aider à réagir un petit peu plus rapidement.
C'est vrai.
En tout cas.
Parce que c'est des choses qui sont disponibles, c'est pas nouveau.
Oui, mais peut-être.
C'est public.
Oui, c'est public, mais peut-être qu'il nous arrivera avec de l'information sur... maintenant, je ne sais pas si la démographie du Québec changeait à ce point, comme on l'a vu d'ailleurs dans la région de Montréal avec l'arrivée des immigrants et les personnes qui sont des réfugiés. Bon, peut-être que ça viendra influencer certains choix. En tout cas, il y a un portrait de ça. Il y a aussi un portrait sur la diplomation ou la qualification secondaire. Alors ça, c'est intéressant. On l'avait déjà. Maintenant, le ministre, lui, ça l'intéresse de voir le réseau qu'il dirige, combien de personnes sont diplômées et qualifiées. Ça m'a un petit peu surpris dans la définition de ça. C'est comme si, à l'intérieur de ça, on mettait une nouvelle définition de qu'est-ce que c'est le décrochage scolaire. Le ministre considère maintenant qu'un décrocheur, c'est quelqu'un qui a été 3 ans sans ne fréquenter aucune institution, primaire et secondaire. Alors, l'éducation des adultes est considérée comme étant une fréquentation scolaire. Et même après, à l'intérieur de 3 ans, le jeune est toujours considéré comme étant un actif potentiel.
C'est ça.
Alors, est-ce que ça vient pas donner un portrait un petit peu tronqué de qu'est-ce que pourrait être le décrochage scolaire quand quelqu'un, un jeune de 16 ans, 17 ans, 18 ans, quand ça fait 2 ans qu'il n'a pas fréquenté un établissement? Est-ce que ça ne peut pas être considéré comme étant quelqu'un qui est en voie de décrochage?
C'est une bonne question.
Je ne le sais pas.
Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de normes. C'était à partir du moment où tu ne fréquentais plus et que tu n'étais pas diplômé ou qualifié, tu étais considéré comme une personne en décrochage.
Puis même, tu t'en souviens, Patrick, dans les années 80, 90, on considérait même que quelqu'un qui allait à la formation générale des adultes était considéré comme étant un décrocheur.
Oui, c'est ça. Mais ça par contre, il fallait que ça évolue.
Ouais, mais là 3 ans, je trouvais ça un petit peu long.
C'est large.
Ce qui l'intéressait aussi, c'est l'entrée au secondaire. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, quoiqu'il n'y a peut-être pas beaucoup d'enfants qui sont considérés, mais lui considère que les enfants à l'âge de 13 ans qui n'ont pas rentré dans une école secondaire, ça l'intéresse de savoir, d'avoir le portrait de ça et de voir comment on peut faire en sorte que les enfants qui sont dans les écoles primaires, comment ça se fait qu'à 13 ans, ils n'ont pas intégré une école secondaire. Alors, il y a sûrement un portrait qui peut
aider.
Ça,
c'est certainement très intéressant.
Hein? Oui, c'est intéressant.
Parce que c'est un phénomène bon, qui est probablement assez restreint, mais qui est, bon, dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants.
Oui, puis c'est un phénomène à laquelle je te dirais, Patrick, qu'on sait pas vraiment, on ne s'est pas intéressé
non,
à ça
pas du tout.
Ces dernières années. On remarque bien que peut-être que ça ne concerne pas beaucoup de personnes, mais n'empêche.
Peu importe le nombre de personnes.
Il l'a mis dans ses critères, c'est intéressant quand même. Les épreuves ministérielles au 4e et 5e secondaire, cela m'a beaucoup questionné parce qu'il va avoir un portrait du taux de réussite des épreuves. C'est des informations qu'il a déjà parce que c'est le ministre lui-même qui pilote ces épreuves-là. De toute évidence, dans le tableau de bord, pour lui, ça représente une certaine importance. La question que je me suis posée, c'est une fois qu'on sait ça, c'est comment il va réagir. Il faut toujours se souvenir qu'on est dans un avion et qu'on a un tableau de bord, et que là, on regarde à l'intérieur du tableau de bord, ben, comment je peux gérer le réseau que j'administre, parce que le ministre administre un réseau. Ben, quels seront ces standards de qualité? Parce que moi, je me suis mis dans la peau d'un pilote pour savoir, ben, pour que le vol soit un succès, qu'est-ce que ça va prendre pour que le vol soit un succès?
Bon, moi, clairement. Puis les données, il faut que ça serve à agir.
Il faut que ça serve à agir. Mais qu'est-ce qu'on va considérer comme étant un bon vol? Alors, moi, j'ai appris au fil des années, quand j'étais dans les centres de services scolaires, j'ai appris que selon l'OCDE, puis on en avait parlé un petit peu dans une émission l'an passé, je pense, on pense que quand il y a 10 % seulement des jeunes qui ne sont pas diplômés ou qualifiés dans un monde idéal, on pense que le réseau scolaire est efficace. Parce que j'imagine que ce que le ministre cherche, c'est l'efficacité.
Sûrement.
Alors, est-ce que c'est ça qu'il vise? Tantôt, dans mon introduction, je te disais qu'il n'y a pas de mesure.
Oui, tout à fait.
Alors, j'imagine qu'éventuellement, le ministre va nous arriver avec des mesures critériées. Mm-hmm. Qu'est-ce que l'État québécois va considérer comme étant un réseau efficace? Alors...
Il faut aller plus loin. C'est évident qu'il faut aller plus loin parce que présenter publiquement des mesures, c'est intéressant.
Des indicateurs. Mais quand va venir le moment de préciser auprès de la population, qu'est-ce qui fait que le réseau, comme on entend beaucoup le ministre de la Santé parler, de dire, tant de médecins devraient avoir tant de... Ça, c'est des chiffres, là.
Oui.
Mais dans le réseau de l'éducation, il va falloir qu'on arrive éventuellement avec des chiffres. Surtout avec l'Institut d'excellence en éducation qui s'en vient, qui est censé s'inspirer de données probantes et qui s'appuie sur la recherche. Donc, ce sont des recherches qui sont critériées un minimum. Alors, moi, j'ai hâte de voir comment il va critérier ça. Les deux autres éléments qu'il met dans son tableau de bord, puis je pensais pas que ça faisait des liens, c'est le personnel scolaire, évidemment. Le personnel scolaire, j'imagine qu'il faisait état, il voulait faire un lien avec la pénurie qu'on a connue l'été passé. Mm-hmm. J'ai cru deviner qu'il voulait avoir un portrait le plus fidèle possible. Bon, le portrait, il va l'avoir avec les informations qui étaient disponibles à ce moment-là. Est-ce que les informations devraient lui arriver plus tôt? Et qu'est-ce qu'il va faire avec? Je ne le sais pas. Il faut se souvenir qu'à la fin de l'année scolaire, les règles qui régissent l'affectation des enseignants en collaboration avec les instances syndicales locales ne nous permettent pas d'aller plus loin que ce que les gestionnaires font actuellement. C'est ce que les directions d'établissement nous ont dit, là. Alors, est-ce que ces informations-là vont aider à aborder les représentants syndicaux sur davantage de souplesse? Parce que
Il y a déjà eu des avancées dans les dernières négociations.
Oui, mais ça devrait l'aider, là, mm-hmm. J'imagine, parce que c'est ça qu'ils visent. Parce que moi, j'ai vu que le lien était fait avec la situation de l'été passé. Et la qualité de l'air. Il nous amène dans son pilotage avec la qualité de l'air. Ça, c'est arrivé comme ça. La qualité de l'air, il veut savoir, je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. Là.
Quand l'air est bon, on étudie mieux.
Non, mais il me semble que 100 % si on s'en va vers des critères, semble que 100 % des écoles devraient avoir une bonne qualité de l'air.
C'est curieux,
puis qu'est-ce Y a-t-il un indice de qualité de l'air qui va être meilleur à Montréal?
Sur des relents de la COVID. Hein?
Ben oui, mais quand même, je trouvais que celui-là, il était un petit peu comme un étranger dans le portrait. Puis je vais terminer. Ben, si les autres éditeurs, ça les intéresse, peut-être qu'ils peuvent aller voir dans Le Devoir la réaction de M. Baillargeon. M. Baillargeon était... nuancé. On sait que M. Baillargeon est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'éducation. Il y a beaucoup de chroniques dans Le Devoir, presque sur une base hebdomadaire. Et il semblait être à l'aise avec le fait. On n'est pas mal à l'aise.
Non,
la seule chose, c'est que quand on arrive dans la mesure, M. Baillargeon semblait nous dire qu'il faut être prudent. Quand on utilise des informations critériées dans le monde de l'éducation, même si il fait beaucoup l'éloge là, du Centre d'excellence en éducation, puis on le comprend, on était d'accord avec ça, nous autres, de toute façon, d'utiliser des données probantes pour améliorer notre réseau,
absolument,
parce que c'est ce qu'on vise.
Absolument.
Mais il semblait avoir une petite gêne sur l'utilisation des données. Bien. Alors, écoute, moi, j'aurais aimé ça aller plus loin parce que j'avais beaucoup de questions sur comment utiliser les données qui vont émerger de ces indicateurs-là pour faire en sorte que l'avion, et je reprends l'exemple de l'avion, bien, tous les passagers assis derrière se sentent en sécurité.
Absolument.
Et qu'ils atterrissent et qu'ils arrivent à bon port.
Mais on va assurer le suivi de cette initiative-là, c'est sûr, dans les prochaines années.
On va sûrement s'en reparler.
Parce que ce n'est qu'un début. Hein. Alors, évidemment, ça va être enrichi. On imagine que ça ne va pas rester là. Donc, on va suivre ça de très près, puis on va vous tenir au courant.
Bien, j'imagine que le ministre, pour lui, c'est un bon exercice de communication.
Oui, bien sûr.
Alors,
puis de publicisation aussi.
Oui,
moi, je trouve ça intéressant de montrer ces chiffres-là à tout le monde. Maintenant, il faut les enrichir. Ensuite, il faut y mettre des critères. Et ensuite,
surtout,
il faut agir.
C'est surtout, il faut agir.
Absolument.
Parce que quand on est face à un tableau de bord et qu'on voit des indicateurs qui descendent anormalement ou qui montent anormalement, ben, il faut poser des gestes. Puis en éducation, ça prend un certain temps.
Absolument.
Alors, écoute, je te remercie beaucoup.
C'est moi.
Alors,
on
se retrouve après la pause.
Absolument. On fait une petite pause publicitaire et ensuite, on parle avec M. David Bessette, l'auteur du livre Le primaire en plein air.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. Entrevue exclusive avec Paul Saint-Pierre Plamondon, les gagnants du concours Le français, une langue qu'on aime, un système de corruption syndicale et en édito, une volte-face politicienne.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à echomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
Les Ours d'Orient est un programme musical artistique animé par Sami Hilal qui met en lumière les figures de la musique arabe, qu'il s'agisse de chanteurs, compositeurs, poètes et écrivains. Ce programme vise également à clarifier les formes musicales arabes et inclut une station qui parle de musiciennes et de musiciens les plus importants du monde arabe et leurs compositions. Trésor d'Orient, chaque mercredi 20h30 sur les ondes de CIBL 101.5 FM, Montréal.
Les générations se parlent à Trait d'Union. Je suis Louise Curodeau et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101.5.
CIBL 101.5, Montréal.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de Parlons éducation, votre magazine sur l'éducation, sur les ondes de CIBL 101,5. Vous savez que vous pouvez nous écrire, commentaires, questions, parlonseducation@hotmail.com. N'hésitez pas, c'est toujours un plaisir pour nous de vous lire. Puis nous vous invitons aussi à participer au bingo de notre station CIBL. Vous allez sur le site de CIBL et vous pouvez participer, avoir la chance de gagner, hein, et en même temps soutenir notre station de radio. Alors, on va tout de suite continuer avec M. David Bessette qui est avec nous. Bonjour, M. Bessette.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup d'être disponible.
Monsieur... Je suis très content d'être là.
Monsieur Bessette donc a écrit un livre. Monsieur Bessette est un enseignant de carrière depuis plusieurs années. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le primaire en plein air, pédagogie efficace et clé en main » chez Septembre Éditeur. Et donc, on aimerait bien que vous nous expliquiez, Monsieur Bessette, pourquoi enseigner en plein air? Quels sont les avantages d'enseigner en plein air?
Oh oui, ils sont nombreux les avantages d'enseigner en plein air. Bien, tout d'abord, c'est vraiment gagnant au niveau de la concentration des élèves, de leur disponibilité. C'est vraiment gagnant aussi pour leur motivation. C'est aussi démontré, on a des données probantes qui montrent que les jeunes ont une meilleure synergie de groupe, ils prennent davantage soin les uns des autres. Un autre avantage aussi, c'est que c'est pas nécessairement les mêmes élèves qui vont ressortir comme forts à l'extérieur des murs de la classe qu'à l'intérieur. Donc, ça permet un changement de dynamique aussi. Ça peut être bon sur l'estime de soi de plusieurs jeunes. Vraiment, les avantages sont très nombreux. Puis, évidemment, je les ai d'abord tous dans les premiers chapitres du livre pour que ce soit bien motivant et que les gens sachent pourquoi est-ce que c'est gagnant comme type de pédagogie.
Absolument, c'est vraiment important. Bernard a une question pour vous.
Oui, bonjour, M. Bessette. Tantôt, vous disiez qu'il y a certains élèves qui sont, entre guillemets, là, je prends des mots puis vous me corrigerez, meilleurs à l'extérieur qu'à l'intérieur, en tout cas. Comment vous l'expliquez? Est-ce que ça veut dire que quand on est à l'extérieur, que des élèves qui sont à l'intérieur de la classe jouent un rôle différent auprès du groupe? Est-ce que vous avez tenté de trouver une explication à ça?
Oui, oui, absolument. Bien, il y a des élèves, on sait qu'il y a différents types d'apprenants. Il y en a pour qui c'est facile de rester concentré, assis derrière un pupitre avec des cahiers, crayons, tout ça. Il y en a d'autres qui ont davantage besoin de bouger, qui vont se sentir aussi plus dans leur élément sur la cour de récréation, quand ils peuvent aller explorer. On a vraiment différentes personnalités. Okay. Dépendamment de ces personnalités-là, bien, on a des forces différentes qu'on exploite assis derrière une table. Que debout, par exemple,
et ça, vous en l'avez faisant observé. Un grand jeu. Et ça, vous l'avez observé avec vos élèves quand vous étiez, par exemple, quand vous dites extérieur, je ne sais pas si vous êtes allé comme dans la forêt ou près de l'école, mais vous avez observé ça dans un contexte là, naturel, pour prendre le mot, là.
Oui, oui, j'ai pu l'observer, autant sur la cour de récréation que dans le parc ou dans un boisé, parce que j'ai la chance d'avoir accès à une belle petite montagne avec de la forêt. Mais oui, peu importe le contexte extérieur, on peut le voir.
Parlons météo un petit peu. Pardon. Bon, au Québec, on sait, hein, quand il ne pleut pas, c'est l'hiver.
Hein, absolument.
Il fait très froid, les températures polaires. Est-ce qu'on peut enseigner dehors malgré ces inconvénients météorologiques?
Ah oui, certainement, on peut. D'ailleurs, j'aborde aussi dans le livre, je déconstruis certains mythes ou certaines craintes qu'on peut avoir face à l'enseignement à l'extérieur. Premièrement, il y a toujours moyen de ne pas y aller dehors. C'est toujours une option si le prof ne se sent pas à l'aise. C'est important qu'on soit confortable. Mais en réalité, pour moi, il n'y a pas de mauvaise température. Il y a seulement des activités mal adaptées et puis des jeunes mal habillés. Mais ça, c'est quelque chose qui est très facile à contrecarrer.
Évidemment, ça prend la collaboration des parents, je suis certain de ça.
Oui, oui. Et c'est pas compliqué de mettre les parents dans notre équipe par rapport à ça. Parce que c'est tellement motivant pour les jeunes, c'est tellement gagnant. Les parents sont ravis là, d'avoir un enseignement qui permet de varier, finalement, les approches pédagogiques.
Dites-moi, M. Bessette, vous savez, Patrick et moi, on a fait carrière dans le monde de l'éducation et depuis quelques années. Là. Et évidemment, on a connu des périodes des années 70, 80, 90 où les approches différenciées en enseignement émergeaient, puis aller enseigner à l'extérieur, ça en faisait partie. Il y avait plusieurs préjugés auprès des enseignants qui faisaient ça, auprès de leurs collègues, auprès des parents. Est-ce que vous avez fait face à des préjugés que certains de vos collègues ou que la direction de l'école ou que les parents avaient pouvaient avoir face à cette approche?
Personnellement, j'ai peut-être été chanceux, j'ai pas vécu aucun préjugé ou aucune réticence. Au contraire, ça a été très bien accueilli de toutes parts, autant des patrons que des parents, que des élèves, que des collègues aussi. Même, je dirais, plusieurs emboîtent le pas. Okay. Avant, quand je sortais, j'étais tout seul, là, l'extérieur m'appartenait. Maintenant, ben, faut se le partager, puis il faut communiquer un peu plus pour pas être en même temps au même endroit.
OK, mais c'était quand même associé à l'époque à des cours d'éducation physique. Bon, mais quand il s'agit d'enseigner le français ou les mathématiques ou des matières plus traditionnelles, ça, est-ce que ça va bien de ce côté-là aussi?
Ah oui, absolument. Ça va très, très bien. L'extérieur, c'est un endroit qui permet de bouger davantage puis d'explorer davantage aussi. Ce qu'on veut, autant en français qu'en univers social, qu'en sciences, qu'en mathématiques, on sait que les élèves apprennent davantage quand ils ont du plaisir. Ça fait des apprentissages plus significatifs, plus durables aussi. Donc, après, quand on a eu du plaisir en apprenant à l'extérieur, qu'on arrive en classe, bien, ils se souviennent beaucoup plus facilement de ce qu'on a fait. C'est plus facile de le réinvestir. C'est vraiment gagnant.
OK. Les activités d'enseignement à l'extérieur, est-ce que ça ressemble à ce qui se fait à l'intérieur ou bien c'est totalement différent?
Ça pourrait être exactement la même chose. T'sais, on peut prendre une classe puis faire dehors ce qu'on aurait fait à l'intérieur. Par contre, moi, je suis d'avis que si on a un environnement différent, aussi bien exploiter celui-là de façon différente. Parce que l'enseignement intérieur, il y a des choses très, très bonnes qu'il faut conserver aussi. Là. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain.
Non, clairement.
Non. Donc, tant qu'à changer d'environnement, aussi bien changer d'approche. Y aller avec, par exemple, un peu plus des jeux, disons, de course ou encore de recherche, il y a moyen d'avoir une approche qui va être vraiment autre chose.
Moi, si je suis un enseignant, je suis dans ma classe aujourd'hui, puis je décide de faire de la classe en plein air, je n'ai pas d'expérience, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour réussir cette expérience nouvelle?
Ah, ben voilà. Ben c'est pour ça hein, que j'ai publié mon livre, parce que
oui.
j'étais là, moi, il y a quelques années. Hein, je me demandais, OK, je vais aller enseigner dehors. Je sais qu'il y a un potentiel exploité là, mais par où je commence? Puis je voulais pas tout construire du début. Sauf que malheureusement, j'ai rien trouvé. À l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de matériel ou d'activité déjà préfaites disponibles. Donc, finalement, le livre que je publie là, présentement, c'est exactement celui que j'aurais tellement aimé avoir dans les mains, moi, quand j'ai commencé. Ça dit aux gens qui ont envie de s'y lancer, d'abord, par où commencer? Quelles autorisations aller chercher? Comment mettre les parents de son côté? Vraiment, quel matériel prévoir? Puis, c'est aussi surtout une banque d'activités clés en main. Pas besoin de tout créer. J'ai vraiment, pour chaque matière et pour chaque niveau, du préscolaire jusqu'à la sixième année, j'ai une banque d'activités pour toutes les matières. Tout ce qu'il y a à faire au début, c'est de reproduire ces activités-là. Puis, mon espoir, c'est que les enseignantes se l'approprient, le mettent à leur couleur, leur personnalité, leur façon de faire. Comme ça, sans activité, parce qu'il y a une banque de 100 activités, ça peut devenir 200, 300, 1000 activités en les modifiant et en les adaptant.
Dites-moi M. Bessette, bon, alors je comprends que c'est plutôt exceptionnel d'enseigner à l'extérieur, quoique pendant la pandémie, il y a eu plus d'initiatives, là, lié à la qualité de l'air, bon, on avait à contrer certains éléments à l'intérieur, mais j'imagine que vous devez avoir un regard critique peut-être sur la formation universitaire des jeunes enseignants à qui, à ma connaissance, en tout cas, je ne pense pas qu'on les initie à ce type de pédagogie-là.
Il y a tellement de choses à voir, c'est tellement vaste hein, comme sujet, l'enseignement. Donc, 4 ans d'université, ça ne peut pas tout couvrir, malheureusement. Je pense que les universités donnent des bonnes bases, mais qu'il faut garder une curiosité professionnelle, continuer à explorer, à partager, à regarder les bons coups que nos collègues font puis se les approprier.
Oui.
Donc.
Mais quand je dis ça, c'est parce que quand on est. Parce que moi, dans ma carrière, j'ai donné quelques cours à des formations en enseignement dans les universités québécoises. Bon, quand il est question de l'organisation de la classe, quand il est question de la gestion de la classe, on parle d'une classe traditionnelle dans une école. J'imagine que la gestion, entre guillemets, de la classe, quand on est sur un terrain, ce n'est pas les mêmes conditions d'exercice de l'enseignement. Est-ce que c'est dans ce sens-là que je voulais vous dire ça, que quand on forme un prof, on forme pour être dans sa classe, là?
Oui. Je remarque personnellement que c'est les mêmes principes. La gestion de classe, ça reste la gestion de classe. Okay. La grande différence, c'est qu'au début, pour les jeunes, dehors égale plaisir. Il y a une association qui est, ben, je suis pas ici pour apprendre, je suis ici pour jouer. Okay. Alors, le défi au début, c'est de bien préparer les jeunes, puis de faire des sorties un peu plus courtes et de vraiment marteler le point d'enseignement pour qu'ils gardent en tête, oh, attention, il y a une intention ici d'apprentissage. Donc, comme enseignant, il ne faut pas laisser les jeunes oublier cette intention-là, mais c'est vraiment très, très rapide qu'ils comprennent puis qu'ils s'habituent. Et maintenant, moi, j'ai aucune différence au niveau de gestion de classe, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
OK.
C'est intéressant, hein, parce que dans le fond, dans votre livre, et je le recommande à tous les enseignants qui aimeraient expérimenter les sorties en plein air, enfin l'enseignement en plein air, pas les sorties, l'enseignement en plein air. Comme vous le disiez, il y a une centaine d'activités d'enseignement qui sont clés en main, qui sont proposées. Comment s'est structurée une activité d'enseignement à l'extérieur? Comment ça fonctionne dans la pratique?
Les principes de base restent toujours les mêmes. On nomme le point d'enseignement, on s'assure que les élèves sachent pourquoi on est en train de faire telle activité. On fait un lien aussi avec quelque chose sur lequel ils ont déjà construit pour que ce ne soit pas un apprentissage dans le vide là, qui va tomber dans le néant, mais que vraiment ce soit accroché à quelque chose que les jeunes connaissent. Donc, on fait un lien, on explique l'intention et puis il faut enseigner de façon courte. T'sais, si, par exemple, je veux apprendre à jouer au tennis, je veux pas que mon coach de tennis me montre comment faire un service, lui, pendant une heure. T'sais, je veux qu'il me l'explique rapidement puis qu'après, moi, je puisse pratiquer. C'est un peu le même principe, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Il faut laisser les jeunes expérimenter, travailler, s'améliorer. Donc, une explication concise, efficace. Ensuite, un temps où les élèves peuvent mettre en application la connaissance ou la compétence qu'on veut leur faire développer. Et on termine avec, bien sûr, un retour sur le point d'enseignement. C'était quoi l'intention? Qu'est-ce qu'on a appris? Et un lien avec le futur. À partir de maintenant, quand est-ce qu'on doit utiliser cette nouvelle connaissance ou compétence qu'on a?
J'aurais une question pour vous encore. Bon, oui. Tantôt, vous avez, puis dans les réponses que vous donnez, vous faites état beaucoup des avantages pour vos élèves. Les avantages que ça vous amène à vous comme professionnel de l'enseignement, est-ce que ça vous fait percevoir votre profession d'une manière différente? C'est quoi les différences? Est-ce que j'imagine qu'un enseignant qui n'a jamais enseigné à l'extérieur, qu'est-ce que ça vous a amené comme professionnel? Est-ce que ça vous a amené à chercher des données probantes sur l'enseignement extérieur? Est-ce que vous avez fait... Quel type de professionnel de l'enseignement vous êtes en train de devenir avec cette approche-là?
Je dirais que je deviens un enseignant plus heureux, moins stressé. Je passe tellement des beaux moments. Il se passe quelque chose de tellement agréable dehors quand on est tous le groupe ensemble. Je suis bien avec mes élèves. On est heureux d'être là, d'être ensemble. On apprend dans le plaisir. Donc, je trouve que...
C'est la connexion. La connexion avec les élèves n'est pas la même.
La connexion est vraiment facilitée, je trouve, par le fait d'être dehors en nature. Le contact avec l'extérieur, on le sait, c'est démontré. Ça baisse l'anxiété.
L'idée d'être en groupe, parce que moi, je me souviens que j'avais un prof avec qui je travaillais à l'époque. Lui, il donnait des cours d'éducation physique. Là, c'est pour ça, tantôt, que je vous ai parlé d'éducation physique. Puis je me souviens que lui, quand il parlait avec ses élèves, puis que ses élèves, ils revenaient à l'école, il y avait comme une énergie qui était différente. Bon, c'était un cours d'éducation physique, là.
Oui, ça aide à l'énergie, ça aussi.
Oui, mais c'est comme si les élèves étaient contents d'avoir été en action ensemble pendant un certain temps dans un projet commun, dans un environnement différent. Puis lui, il se sentait plus comme un accompagnateur. Est-ce que vous avez la même sensation?
Oui, j'ai la même sensation. C'est tellement bien vu ce que vous venez de dire. Puis on récolte aussi les fruits de ça à l'intérieur de la classe aussi, quand on rentre dans l'école. parce que être toujours, toujours à l'intérieur, ben, ça fait que c'est pas spécial d'être à l'intérieur. Si on était toujours, toujours, toujours dehors, ce serait pas non plus spécial d'être dehors.
Ouais.
Et là, le fait de varier d'un à l'autre, utiliser la classe, l'extérieur, puis l'extérieur, c'est varié, ça peut être la cour de récréation, les parcs, c'est plein de situations différentes. Même, je dirais, le gymnase de l'école, changer les endroits où on est,
ouais,
ça rend chacun d'eux un petit peu plus spécial.
OK. Puis dites-moi, peut-être que vous l'avez dit, là, mais bon, l'âge des élèves, est-ce que ça peut nuancer votre perception de cette approche-là?
Ben, j'aurais eu tendance à dire au début que c'était plus facile avec les plus jeunes.
Okay.
Parce que quand je vous disais tout à l'heure que j'essaie de rechercher des activités ou des gens qui avaient de l'expérience là-dedans, moi, je suis enseignant au troisième cycle, donc les élèves plus vieux ou du primaire. Puis tout ce que je trouvais, c'était pour les petits, soit les CPE ou le préscolaire. Donc, j'avais la perception que peut-être c'était plus facile comme approche pour les plus jeunes. Tu sais, sont dans l'exploration beaucoup, la relation avec l'environnement, la socialisation. Puis dehors, c'est très gagnant pour toutes ces choses-là. Mais avec mon expérience personnelle maintenant, je dirais que c'est aussi approprié pour les plus vieux. On a des attentes académiques plus élevées, mais c'est tout aussi réalisable avec les plus vieux.
Puis
mon livre, ben, ça va vraiment aider les gens à trouver des idées.
Puis j'imagine que, comme vous dites, que vous êtes au troisième cycle du primaire, alors j'imagine que les plus vieux saisissent mieux les consignes aussi. Est-ce que ça se peut? Parce que des jeunes du préscolaire ou du premier cycle, bon, l'accompagnement n'est pas le même, là. Est-ce qu'il y aurait peut-être cet avantage-là aussi? Plus les élèves sont un petit peu plus âgés, plus les consignes sont intégrées plus rapidement ou de façon plus claire, est-ce que ça se peut?
Une des choses que j'aime d'enseigner aux plus vieux, c'est qu'on peut aller plus en nuance, en subtilité. Donc, ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec eux. J'imagine que ça peut aussi s'appliquer aux consignes. On peut être un peu plus détaillé dans les consignes qu'on donne. On peut aussi donner davantage d'étapes à la fois dans nos demandes aux jeunes, parce qu'on sait que les plus jeunes, on veut garder ça simple, une consigne à la fois plus.
Ben ouais.
Donc, ça peut être aidant, effectivement.
Bon, alors écoutez, moi, je vous laisse entre les mains de Patrick. Je trouve ça très intéressant.
Ben, en tout cas, on doit terminer ici, M. Bessette. Vraiment, en effet, c'était très intéressant. Je rappelle le nom de votre livre. Ça s'appelle « Le primaire en plein air, pédagogie efficace et clé en main » chez Septembre Éditeur. Donc, on peut le trouver, j'imagine, dans toutes les bonnes librairies ou se le commander sur le site des libraires. Alors, un grand merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et on vous souhaite plein de belles sorties en ce beau soleil de printemps avec vos élèves.
Absolument.
Merci beaucoup. Au revoir. Alors voilà, nous allons faire une petite pause musicale et ensuite on revient avec la question de la semaine. Alors, nous sommes de retour avec la question de la semaine. Bernard, sur quoi nous questionnons nos auditeurs cette semaine?
Alors, j'ai tenté, Patrick, de te proposer, puis évidemment, je le propose aux auditeurs de la même manière, une question qui est un petit peu embêtante pour moi, mais je tenais à la partager avec nos auditeurs. On a parlé à notre émission de Parlons éducation à quelques reprises. On a parlé de l'éthique professionnelle des enseignants. On a eu même un invité qui a fait des recherches sur les questions qu'on peut aborder avec les élèves.
Est-ce qu'on peut aborder tous les sujets
avec les élèves? Dans la relation, évidemment, pédagogique. C'est sûr qu'on enlève les éléments de la vie privée là, puis de la vie personnelle.
Évidemment.
Tu sais, là, on n'est pas là-dedans. Mais évidemment, je ne te cacherai pas que ce qui se passe en Israël avec le Hamas et on est, je pense, en tout cas, là, depuis quelques mois, dans un contexte de guerre. Puis évidemment, il y a possiblement, dans certaines écoles québécoises, des jeunes Palestiniens, des jeunes Juifs, puis des jeunes de tout acabit, de toute façon.
Des jeunes concernés.
Et des jeunes concernés, puis des jeunes pour qui ces phénomènes-là, entre guillemets, je peux appeler ça un phénomène, ces situations sociales-là peuvent, ça peut les intéresser et ça peut les interpeller, puis ils peuvent avoir des questions. Alors, ce qui m'a sensibilisé à ma réflexion pour la question de la semaine, c'est quand des jeunes secondaires, parce que je prends les jeunes secondaires parce que l'âge des enfants primaires peut-être permet pas ce genre de questionnement, mais on sait qu'un jeune qui a 13, 14, 15, 16 ans peut avoir ce genre de questions.
Tout à fait.
Alors, quand les jeunes de nos écoles secondaires ont des questions concernant une guerre. Là, je parle de la guerre qui se passe en Palestine avec Israël, mais ça peut être aussi ce qui se passe en Russie avec l'Ukraine.
Tout à fait.
Bon, quand il y a ces questions-là, comment l'enseignant se positionne pour aborder ces sujets-là? J'ai choisi celle du Hamas avec Israël parce qu'il y a un volet historique, religieux, qui entoure un petit peu cette question-là. Alors, je me disais, quand l'enseignant reçoit ce genre de questions-là, quelle est sa position? Est-ce que l'enseignant refuse d'aborder
le sujet?
D'aborder le sujet avec ses élèves. Puis pourquoi il refuse, selon vous, alors nos auditeurs, qu'est-ce que l'enseignant devrait faire? Est-ce qu'il doit refuser? Puis pourquoi il devrait refuser? Et est-ce qu'il doit accepter? Puis comment il aborde cette question-là avec ses élèves? Moi, j'aurais envie de connaître les opinions de nos auditeurs au regard de ça, parce que c'est des questions délicates. Mais c'est des questions qui sont présentes chez les jeunes. Puis ce qui a déclenché cette question-là, pour être bien franc avec toi, Patrick, c'est l'an passé, quand des jeunes d'une école secondaire ont demandé d'avoir un lieu de prière à l'intérieur de l'école. Tu t'en souviens?
Oui.
Le ministre avait réagi. Il n'y en est pas question. C'était ça qu'on avait eu comme feedback. Mais le questionnement des jeunes était là pareil. Et comment on traite ce questionnement des jeunes qui ont 12, 13, 14, 15 ans? Et ce sont des vraies questions pour eux, là.
Absolument, absolument. Oui.
Alors, et je trouvais que à ce moment-là, il y avait comme peut-être un manque d'ouverture, je dirais, moi, sur les questionnements des jeunes. Alors, ma question, ce serait ça. Les enseignants qui sont confrontés à ce genre de questionnement-là, quel devrait être leur positionnement? Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que toi, tu as comme idée au regard de ça?
C'est sûr que c'est une question intéressante. Quand on avait fait l'entrevue sur ce sujet-là, il y a quelques mois, on nous avait présenté comme une grille d'évaluation. Hein?
Ouais. Que les profs devraient utiliser.
Voilà. Il y avait 3 ou 4 critères, si mes souvenirs sont bons, qui faisaient en sorte que l'enseignant, en passant ces critères-là, pouvait répondre à cette question-là, exactement à cette question-là, pas sur ce sujet-là, mais sur n'importe quel sujet du même acabit. Et cette grille était vraiment intéressante parce que c'était un guide pour éviter les dérapages ou quoi, parce qu'on sait qu'une question comme celle-là, maltraitée ou sans nuance, sans approche professionnelle, parce que c'est très émotif, on le sait, hein, oui. C'est émotif dans le public, dans le grand public, ici, oui. À Montréal, en province, partout, au Canada et dans le monde entier.
Oui, oui, c'est clair.
Et les jeunes n'échappent pas à ça, donc ils ont ces réactions qui peuvent être émotives, ils ont des feedbacks, pas des feedbacks, ils ont des contextes, je veux dire, personnels, religieux, oui. Politiques, etc., à la maison.
Mais aussi, moi, ce qui m'intéressait, c'est les jeunes qui ont ces questions là peuvent avoir aussi un désir de paix. Moi, ce qui me questionnait beaucoup, c'est que les jeunes, on sait très bien qu'à cet âge-là, les jeunes, on leur donne un message de paix. Hein? On veut vivre en paix, on veut vivre dans une société où les gens sont bien, sont heureux, et ils observent ces phénomènes-là. Alors, moi, je pense que ça doit les interpeller aussi sur... Est-ce que le monde qu'ils vont connaître, ça va être un monde de paix?
Absolument.
Et dans ce sens-là, les enseignants, je pense qu'ils peuvent être interpellés dans leur rôle d'éducateur.
Alors, la question est lancée. Vous nous écrivez parlonseducation@hotmail.com pour nous dire ce que vous pensez de cette question-là. Et on va vous lire avec grand plaisir. En attendant...
Il n'y a pas de réponse parfaite non plus.
Non, non, c'est clair. Notre émission est terminée, malheureusement. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Donc, nous avons été très heureux d'être avec vous, chers auditeurs, chères auditrices. On vous donne rendez-vous.
Et bonne éclipse.
Dans deux semaines.
Bonne éclipse.
Oui.
Solaire.
Faites attention.
Faites attention à vos yeux. Au revoir.
Au revoir.